évasion. Trois semaines s'écoulèrent. Luc mangea. Il dormit, se réveilla, mangea de nouveau. Très vite, il mémorisa le menu et se joignit aux applaudissements sarcastiques des autres pensionnaires chaque fois qu'un plat changeait. Certains jours, il y avait des tests. Certains jours, des injections. Certains jours, les deux. Certains jours, ni l'un ni l'autre. Quelques injections le rendirent malade, mais dans l'ensemble, non. En tout cas, sa gorge n'enfla plus jamais, ce dont il se réjouit. Il traînait sur le terrain de jeu, il regardait la télé et sympathisa avec Oprah, Hélène, le docteur Phil, le juge Judy. Il regardait sur YouTube des vidéos de chats qui s'observent dans la glace et de chiens qui attrapent des frisbees au vol. Parfois il les visionnait seul, parfois avec les autres enfants. Quand Harry venait dans sa chambre, il était accompagné des jumelles qui réclamaient des dessins animés. Quand Luke se rendait dans la chambre de Harry, les jumelles étaient presque tout le temps présentes. Harry n'était pas très dessin animé. Il avait un penchant pour le catch, les vidéos de combats en cage et les carambolages du NASCAR. Il accueillait généralement Luke par ces mots « Tu vas voir ça ». Les jumelles raffolaient des coloriages et les intendants leur apportaient des piles et des piles d'albums à colorier. Habituellement, elles ne dépassaient pas les traits, mais un jour, elles colorièrent n'importe comment, ce qui les fit beaucoup rire. Luke en déduisit qu'elles étaient ivres ou droguées. Lorsqu'il interrogea Harry, celui-ci répondit qu'elles avaient voulu essayer. Il eut la décence de prendre un air honteux, et quand elles vomirent, en cœur, comme tout ce qu'elles faisaient, il eut la décence de paraître encore plus honteux. Et c'est lui qui nettoya. Un jour, Hélène réussit un triple saut périlleux sur le trampoline. Elle éclata de rire, salua, puis fondit en larmes. Impossible de la consoler. Lorsque Luc voulut essayer, elle le frappa avec ses petits poings. Bang, 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 bang. Pendant quelque temps, Luc battit tous les nouveaux arrivants aux échecs, et quand cela devint lassant, il trouva des moyens de perdre, ce qui était étonnamment difficile pour lui. Il avait l'impression de dormir même lorsqu'il était réveillé. Il sentait son QI décliner, il le sentait réellement, comme de l'eau qui coule d'une fontaine, car quelqu'un a oublié de fermer le robinet. Il compta les jours de cet étrange été grâce au calendrier de son ordinateur. Outre le visionnage des vidéos sur YouTube, il utilisait son ordinateur uniquement, à une seule exception, notable, pour chatter avec George ou Hélène dans leur chambre. Ce n'était jamais lui qui commençait ces discussions, et il les écourtait autant que possible. « Qu'est-ce qui va pas ?» lui écrivit Hélène un jour. « Rien, » répondit-il. « À ton avis, pourquoi on est toujours à l'avant ?» lui demanda George. « Même si je me plains pas. »« Je sais pas, » répondit Luc, et il mit fin à la communication. Il s'aperçut qu'il était aisé de masquer son chagrin aux intendants, aux techniciens et aux médecins, tous habitués à s'occuper d'enfants déprimés. Pourtant, même dans les profondeurs de sa tristesse, il songeait parfois à l'image joyeuse qu'avait projetée Avery, celle d'un canari qui s'échappe de sa cage. Son cauchemar éveillé était parfois traversé de bribes de souvenirs éclatants qui surgissaient à l'improviste. Son père l'aspergeait avec le tuyau d'arrosage. Son père tirait un lancer franc en tournant le dos au panier. Luc plaquait son père à la manière d'un footballeur au moment où le ballon entrait dans le cercle et tous les deux tombaient dans l'herbe en riant. Sa mère déposait sur la table un gigantesque cupcake recouvert de bougies allumées pour son 12e anniversaire. Elle le serrait dans ses bras en disant « Ce que tu es devenu grand !» Ses parents dansaient comme des fous dans la cuisine pendant que Rihanna chantait « Pon de replay ». Autant de souvenirs magnifiques, aussi piquants que des orties. Quand il ne pensait pas au couple de Falcon Heights sauvagement assassiné, quand il n'en rêvait pas, Luc songeait à la cage dans laquelle il était enfermé et à l'oiseau qu'il aurait voulu être. Il n'y avait que dans ces moments-là que son esprit semblait capable de retrouver son acuité d'autrefois. Certaines choses tendaient à confirmer sa théorie qui voulait que l'Institut fonctionne selon le principe d'inertie, à l'image d'une fusée qui coupe ses moteurs une fois la vitesse de libération atteinte. Les globes en verre noir des caméras de surveillance incrustées dans les plafonds des couloirs, par exemple. La plupart semblaient ne pas avoir été nettoyés depuis longtemps, notamment dans l'aile ouest de l'étage résidentiel. Les caméras fonctionnaient encore, sans doute, mais les images qu'elles filmaient devaient être floues au mieux. Malgré cela, visiblement, ni Fred ni ses collègues de l'entretien, mortes, Connie, Jawed, n'avait reçu l'ordre de les nettoyer. Conclusion. La personne censée surveiller les couloirs n'en avait rien à foutre que les images de surveillance soient pourries. Luc se pliait à la routine en courbant l'échine. Il faisait ce qu'on lui demandait, sans protester. Mais quand il ne restait pas dans sa chambre comme un zombie, il avait toujours une oreille qui traînait. La plupart des choses qu'il entendait n'avaient aucun intérêt. Néanmoins, il enregistrait tout. Il stockait, y compris les ragots. Ainsi, le docteur Evans courait après le docteur Richardson. Il essayait d'engager la conversation. Trop obsédé par sa bite, Dixit, l'intendante Norma, pour s'apercevoir que Felicia Richardson n'aurait même pas voulu le prendre avec des pincettes. Autre exemple, Joe et deux autres intendants, Chad et Gary, utilisaient parfois les jetons qu'ils ne distribuaient pas aux pensionnaires pour acheter des petites bouteilles de jus de fruits alcoolisés aux distributeurs du salon Est. Parfois, ils parlaient de leur famille et d'un bar, l'Outlaw Country, où se produisaient des groupes de musiciens. « Si on peut appeler ça de la musique », avait dit une intendante prénommée Sherry à Gladys l'hypocrite. Ce bar, que les techniciens et les intendants appelaient « la chatte », se trouvait dans une ville nommée Denison River Bend. Luc ne parvenait pas à la localiser, mais sans doute ne se trouvait-elle pas très loin de l'Institut, 40 ou 50 kilomètres au maximum, car ils s'y rendaient tous quand ils avaient un peu de temps libre. Luc notait mentalement les prénoms qu'il entendait. Le docteur Evans s'appelait James, le docteur Hendricks, Dan. Tony s'appelait Fitzale, Gladys, Hickson, et Zeke, Ioannidis. S'il sortait d'ici un jour, si le canari s'échappait de sa cage, il espérait pouvoir témoigner contre ces salopards au cours d'un procès. Ce n'était peut-être qu'un fantasme, il en avait conscience, mais cela l'aidait à tenir le coup. Maintenant qu'il se comportait en bon petit soldat, on le laissait parfois seul au niveau C, brièvement, en lui ordonnant de ne pas bouger. Il hochait la tête, attendait que le technicien soit parti faire ce qu'il avait à faire, puis il s'en allait lui aussi. Il y avait de nombreuses caméras de surveillance aux niveaux inférieurs, bien propres celles-ci, mais aucune alarme ne se déclenchait, aucun intendant n'accourait en brandissant son zapstick. Deux fois, il fut surpris en train de rôder. On le ramena simplement à son point de départ, avec une réprimande la première fois, une tape derrière la tête la seconde fois, pour la forme. Au cours d'une de ses expéditions, il essayait toujours de donner l'impression d'errer sans but, un enfant qui trompe son ennui avant le prochain test, en attendant qu'on l'autorise à regagner sa chambre. Luc découvrit un trésor. Dans la salle d'IRM déserte ce jour-là, il avisa, à moitié caché sous un écran d'ordinateur, une des cartes magnétiques qui servait à actionner les ascenseurs. Il la rafla en passant devant et la fourra dans sa poche, pendant qu'il faisait mine de contempler le tube de la machine. Il s'attendait presque à ce que la carte se mette à crier « Voleur, voleur !» quand il ressortit de la pièce, comme la harpe magique que Jack volait au géant, mais rien ne se produisit, ni à cet instant ni plus tard. Ne tenait-il pas le compte de ces cartes? Apparemment non. Elle était peut-être arrivée à expiration, aussi inutile qu'une clé magnétique d'hôtel une fois que le client a rendu sa chambre. Mais quand Luc la testa le lendemain dans l'ascenseur, il constata avec ravissement qu'elle fonctionnait. Le surlendemain, lorsque le docteur Richardson le surprit en train de regarder à l'intérieur de la salle qui renfermait le caisson d'immersion, au niveau D, il s'attendit à être puni, peut-être même à recevoir une décharge du zapstick qu'elle portait généralement sous sa blouse blanche dans un étui, ou à se faire rosser par Tony ou Zeke. Au lieu de cela, elle lui remit un jeton, pour lequel il la remercia. « J'ai pas encore eu le droit à ça, » dit Luc en montrant le caisson. « C'est horrible ?» « Non, c'est amusant, » répondit-elle avec un grand sourire, comme si elle en était convaincue. « Mais que fais-tu par ici ?»« C'est un intendant qui m'a amené. Je connais pas son nom. Il avait dû oublier son badge. »« Il a de la chance. Si tu avais pu me donner son nom, j'aurais été obligé de faire un rapport et il aurait eu des ennuis. Mais bon, encore de la paperasse, toujours de la paperasse. » Elle leva les yeux au ciel et Luc lui adressa un regard qui disait « Je compatis ». Elle le conduisit jusqu'à l'ascenseur, lui demanda où il était censé se trouver. « Au niveau B, » répondit-il, et elle l'accompagna. Elle l'interrogea pour savoir s'il avait toujours mal, et il dit que la douleur avait disparu. La carte magnétique lui permettait également d'accéder au niveau E, où il y avait un fatras de machines. Mais quand il voulut descendre plus bas, car il avait entendu parler des niveaux F et G dans des conversations, Miss Voix d'ascenseur l'informa d'un ton agréable que l'accès lui était interdit. Tant pis, qui ne tente rien à rien. À l'avant, il n'y avait pas de test écrit. En revanche, il subissait un grand nombre d'EEG. Parfois, le docteur Evans faisait passer les enfants en groupe. Un jour où Luke subissait l'examen seul, le docteur Evans grimaça soudain, porta la main à son estomac et annonça qu'il revenait tout de suite. Après avoir ordonné à Luke de ne toucher à rien, il sortit précipitamment. « Pour aller poser sa pêche, » devina Luke. Il examina les écrans d'ordinateur, fit courir ses doigts sur quelques claviers, envisagea de taper n'importe quoi pour voir, et décida que ce serait une mauvaise idée. Au lieu de cela, il s'approcha de la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir, juste au moment où émergeait de l'ascenseur le grand type chauve, vêtu du même costume marron de luxe, à moins que ce soit un autre. Stackhouse possédait peut-être un placard rempli de costumes marrons. Il avança dans le couloir en feuilletant la liasse de documents qu'il tenait à la main, et Luke recula vivement. Il y avait dans la salle C4, celle des appareils à EEG et à ECG, une alcôve bordée d'étagères supportant diverses fournitures. Luke s'y cacha, sans savoir s'il obéissait à un pressentiment naturel, à une de ces nouvelles ondes cérébrales de TP ou à une bonne vieille paranoïa. En tout cas, c'était moins une. Stackhouse glissa la tête à l'intérieur de la salle, la balaya du regard et repartit. Luke attendit d'être sûr qu'il n'allait pas revenir, et il reprit sa place à côté de l'appareil de EG. Deux ou trois minutes plus tard, Evans entra d'un pas vif. Sa blouse blanche flottait derrière lui, il avait les joues rouges et les yeux exorbités. Il agrippa Luke par son t-shirt. « Qu'a dit Stackhouse quand il t'a vu tout seul? Je veux savoir. » « Il a rien dit parce qu'il ne m'a pas vu. Je vous guettais dans le couloir. Et quand M. Stackhouse est sorti de l'ascenseur, je me suis caché là. » Luke montra l'alcôve aux fournitures et leva vers le docteur Evans un regard innocent. « Je voulais pas que vous ayez des ennuis. »« Tu es un brave garçon, » dit Evans. Et il lui donna une tape dans le dos. « J'ai dû répondre à un appel pressant de la nature et je savais que je pouvais te faire confiance. Bon, finissons-en avec cet examen. Ensuite, tu pourras remonter jouer avec tes amis. » Avant d'appeler Yolanda, une autre intendante, nom de famille Freeman, pour qu'elle le ramène au niveau A, Evans donna à Luke une douzaine de jetons et une autre tape dans le dos, vigoureuse. « C'est notre petit secret, hein ?»«
Oui. »
« Il croit vraiment que je l'aime bien, » s'étonna Luke. « Délirant, non ? Quand je vais raconter ça à George ?»